BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom. Aujourd'hui, on va beaucoup parler d'automobile avec la fin du mondial à Paris. Valérie Planchaise, la vice-présidente de Havas Paris, viendra nous expliquer la stratégie de communication qu'elle a montée autour du retour de l'Alpine. On sera aussi avec Leïla Abdallaoui, responsable de la communication chez Seat France, et Bertrand Nadeau, directeur général de l'agence Fuse, pour parler de placement de produits. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Alexandre Kruglikov, directeur marketing France et Belgilux de Ricola. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Bonjour Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne.
Bonjour Aurélie.
Pour les news, la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment prend la parole. C'est d'ailleurs une première depuis leurs 73 ans d'existence.
Et oui, la CAPEB lance une campagne à destination des chefs d'entreprise du bâtiment. L'organisation patronale veut leur rappeler qu'elle est là pour les accompagner, pour défendre leurs intérêts et puis surtout pour leur permettre de travailler l'esprit tranquille.
Parce qu'on peut savoir construire, couvrir, souder, mais être découragé devant une pile de papier. Parce qu'on peut allier passion et savoir-faire, mais avoir du mal à le faire savoir. Parce qu'on peut avoir l'esprit d'équipe, l'esprit d'entreprise et l'esprit créatif et avoir besoin de conseils pour travailler l'esprit léger. Parce qu'on peut attaquer sans cesse de nouveaux chantiers, mais avoir besoin d'être défendu. Il y a la CAPEB.
Et la campagne est orchestrée par Anatome et Madame Bovary.
La Caisse d'épargne, elle dévoile une nouvelle campagne avec une cible bien définie, les femmes.
Et oui, la banque veut montrer qu'elle soutient les femmes entrepreneurs, qu'elle les accompagne dans leurs projets. La Caisse d'épargne dévoile donc un programme baptisé Femmes de talent, avec des solutions de financement ou des actions de sensibilisation. Et puis surtout, elle lance une nouvelle publicité en télévision pour bousculer les clichés.
On a dit à Margot...
Excuse-moi, mais pour monter sa boîte, faut avoir des idées, mais faut surtout avoir les épaules.
On a dit à Margot...
Mais comment tu veux faire avec tes enfants? Ça existe, chef d'entreprise à mi-temps?
On a dit à Margot...
Et le business plan, vous l'avez fait toute seule? Comme une grande?
Nous, on a dit à Margot qu'une femme entrepreneur est un entrepreneur comme les autres.
Et la campagne est signée par l'agence Altman Pacro.
Et puis McDonald's s'adresse aux dyslexiques, ça se passe en Suède.
Avec une campagne un peu spéciale orchestrée par l'agence NordDDB et des affiches de ses hamburgers sur lesquelles la marque a inversé les lettres de ses produits. Alors par exemple, un hamburger au bacon est devenu un hamburger au BCOAN, une façon de sensibiliser ses clients aux troubles de la dyslexie.
Et puis nous en parlions sur le plateau d'HebdoCom la saison dernière, la future sortie du parfum I am trash, fleur de déchets.
Un parfum réalisé avec des déchets et résidus de l'industrie du parfum. Le teaser avait été dévoilé il y a quelques mois par État libre d'Orange. Il nous montrait des fleurs fanées mangées par des vers de terre, puis la renaissance d'une fleur dans cette terre. Alors on ne savait pas trop ce qu'allait donner ce parfum, ni à quoi s'attendre pour son odeur. Eh bien aujourd'hui, on peut le tester puisqu'il vient de sortir. Une campagne accompagne également ce lancement, toujours orchestrée par l'agence Ogilvy Paris. Et l'agence poursuit sa communication sur le même registre du recyclage en réutilisant et détournant des anciennes affiches de la marque.
Alors justement, Frédéric, vous l'avez testé, me semble-t-il.
On a reçu, oui, pas plus tard que ce matin, d'ailleurs, au journal. Et oui, je l'ai testé. Disons que je suis pas complètement dans la cible. Mais bon, c'est une odeur. Et il faut pas penser à ce à quoi ça a été, avec quoi ça a été préparé. Quoi.
Vous êtes pas assez jeune et pas assez trash, en fait, c'est ça?
C'est ça. Voilà.
Merci Marie Valogne. On vous retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Valérie Planchaise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de l'agence Havas Paris. On sort du mondial de l'auto et on a voulu faire avec Frédéric une étude de cas sur la stratégie de communication de la marque Alpine que vous avez bâtie d'ailleurs. Donc sans faire de pub, vous avez tout misé sur les réseaux sociaux au départ. Pourquoi ce choix ?
Eh bien, on avait une cible un peu particulière sur Alpine. On est vraiment sur des passionnés. Il existait déjà des passionnés d'Alpine alors même que la marque n'existait plus. Et donc, on a commencé par se réapproprier ces passionnés, discuter avec eux pour pouvoir étendre après à des consommateurs qui connaissaient un peu moins bien.
Et justement, il en restait beaucoup des passionnés parce que la marque avait disparu, je crois, en 95, c'est ça?
Mais c'est ça qui est fascinant sur les sujets de passion comme ça, c'est qu'il y a de la transmission. Donc il y avait effectivement des passionnés qui ont un certain âge, mais ils ont raconté ça à leurs fils, ils ont raconté ça à leurs filles, ils ont raconté ça à leurs petits-enfants, et donc il y a pas mal de gens, oui.
Et d'ailleurs, vous les avez trouvés comment? C'est du, là, pour le coup, c'est de la data ou vous avez fait ça à l'ancienne?
On a fait ça à la fois à l'ancienne, à la fois avec de la data. On s'est appuyé sur une société d'études qui s'appelle Bloom, qui a fait un travail assez extraordinaire de cartographie vraiment des communautés de passionnés sur le web.
Alors, en même temps, ces gens-là, il fallait leur parler. C'était un peu particulier. Il y avait une voiture qui n'existait pas. Une marque dont en effet on disait depuis des années qu'elle allait renaître mais qui renaissait pas, ils devaient être un petit peu sceptiques. Comment est-ce que vous avez fait au fond pour arriver à les convaincre et à les raccrocher à cette histoire?
Ça a pris du temps. D'abord, là-dessus, effectivement, Renault a travaillé de façon, je trouve, absolument admirable, parce que c'est un énorme bonheur de travailler pour eux, parce qu'ils ont très bien travaillé. Ils ont été très sérieux dans la façon dont ils ont abordé ce type de problème-là. Ils les ont intégrés aussi au début, ils ont été les voir, ils ont discuté avec eux. On les a intégrés dans la communication, on leur a demandé leur avis. Donc, ils ont été, je dirais, acteurs tout au long de l'expérience d'Alpine
et
de Renault.
Oui, vous les aviez emmenés au Monte-Carlo.
Exactement. Même Carlo Osgoon avait présenté en avant-première avant les journalistes à ses passionnés, ce qui a fait qu'ils étaient extrêmement impliqués et très très émus.
Justement, vous avez mentionné Bloom, là, la start-up française d'intelligence artificielle qui est spécialisée dans l'analyse stratégique et qualitative des réseaux sociaux. Comment est-ce que, vraiment, quel a été leur travail? Comment est-ce que vous avez fonctionné avec eux? Parce qu'en fait, vous aviez une base, effectivement, d'anciens habitués de l'Alpine, on va dire, de passionnés, mais il a fallu l'étendre petit à petit, cette base.
Donc en fait, déjà quand on est passionné, généralement on se parle, on raconte des choses et on en parle à les gens qui sont passionnés autour de vous. Donc on trouvait sur le web énormément déjà de mentions, de gens qui s'interrogeaient, de forums, de gens qui avaient envie de parler d'Alpine. Donc on avait une base, hein, c'est évidemment beaucoup plus facile quand la marque a quand même un peu de prégnance, je dirais, dans la population. Et puis à partir de là, on a travaillé par cercle concentrique en allant chercher quels étaient leurs centres d'intérêt en dehors de l'automobile. Et donc on s'est appuyé sur ces centres d'intérêt pour pouvoir étendre la base de passionnés auxquels on parlait.
Et après, Frédéric le disait justement, il a fallu faire vivre ces communautés, parce qu'entre le moment où on a annoncé le retour de la Pine, je crois que c'était en 2012, et le moment où ensuite la première est sortie vraiment des usines, fallait alimenter en contenu même parfois exclusif, comme tout à l'heure par exemple avec le voyage à Monte Carlo dont vous parliez. Il faut maintenir cette attention. Comment on fait?
Alors d'abord, on a travaillé, et vraiment là-dessus, Alpine, on a travaillé de façon très collaborative avec eux, parce qu'ils ont accepté de prendre des risques. Ils ont accepté de révéler des choses, ce qu'on ne fait jamais dans l'automobile, avant même que la voiture soit vraiment présentée et qu'elle existe. Je veux dire qu'au départ, on a par exemple raconté des petits indices qui étaient extrêmement intéressants pour les passionnés, genre le fait que par exemple elles sont entièrement en aluminium ou qu'il y ait une plateforme complètement dédiée qui était fabriquée par les spécialistes de Renault pour cette voiture. Ce sont des choses qui parlent directement à des gens qui sont très intéressés par les sports cars. Voilà. Donc on l'a raconté avant. D'habitude, on fait ça au moment où on présente la voiture. Et donc, petit à petit, en fait, on a construit toute une base de gens qui s'intéressaient au sujet, qui attendaient les nouvelles informations un peu privilégiées qu'on allait leur donner, qui se sont inscrits sur nos réseaux sociaux, qui les ont partagés et qui, du coup, ont connu au fur et à mesure cette montée en puissance, je dirais, de la marque et de son retour.
Alors, ça a plutôt très bien marché, parce que je crois que la voiture a été, la première fournée, si on peut dire, a été commandée en quoi? Il y a eu 3000 commandes en quelques heures.
Alors, il y a eu 1955 commandes.
Ah oui, 1955.
Puisque, la première édition, c'était l'année de naissance d'Alpine. Et ce qui était assez joli, d'ailleurs, vous n'êtes pas complètement étranger à cette histoire, puisqu'en fait, on se préparait.
Plus jeune que l'Alpine.
Oui, un petit peu plus. On se préparait donc à révéler qu'on pouvait réserver une Alpine sur une appli. On avait donc prévu un petit plan de com. Et en fait, c'est un journaliste passionné d'Alpine de BFM qui est parti aux États-Unis, que vous devez connaître, c'est Fesch, qui a dit ça va ouvrir. Et on était un petit peu embêtés. Et en fait, le Ça va ouvrir a fait un afflux de tout le monde.
Merci Cédric.
Bah ouais, non, mais c'était absolument génial. Au début, on s'est dit, ah, zut, ça va être embêtant. Mais non, en fait, c'était génial. Ils sont allés derrière s'inscrire. Et effectivement, en 72 heures, les 1955 étaient partis.
Mais ouais. C'est jamais arrivé, ça, fin, dans l'histoire de l'automobile.
Non, aussi. Non.
Surtout à l'aveugle, si je puis me permettre.
Oui, c'était à l'aveugle.
Ils ne savaient pas ce qu'ils achetaient.
Non, ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils achetaient. Ils savaient une zone de prix, une silhouette de voiture, parce que quand même c'était très très proche en fait effectivement du dernier Chocar qui avait été présenté, et on s'était la marque s'était engagée à ce que ça soit à ce point-là proche, mais ils savaient à peine le moteur et ils avaient très très peu d'informations. Ouais, donc effectivement ils ont fait confiance et ils se sont engagés derrière, et comme il y a eu tellement un afflux, Alpine a décidé d'ouvrir les réservations pour le modèle futur dont ils connaissaient encore moins de choses.
D'accord. Merci beaucoup Valérie Planchet pour cette étude de cas, vice-présidente de l'agence Havas Paris.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Avec Simon Tenenbaum de la rédaction de BFM Business. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on parle d'une grande tendance en matière de consommation. Les consommateurs attendent des marques qu'elles prennent des positions sur des grands sujets de société, même si ça n'a absolument rien à voir avec le produit qu'elles vendent. Et selon une nouvelle étude que vous nous présentez aujourd'hui, ces engagements des marques sont de plus en plus déterminants dans les actes d'achat, Simon.
Oui, alors question posée, choisissez-vous une marque pour ses prises de position sur les grands débats de société ? Réponse oui pour 65% des consommateurs français. C'est un bond de 15 points en un an.
Ah oui.
L'étude du cabinet américain Edelman a interrogé des consommateurs du monde entier et les résultats sont sensiblement les mêmes au niveau global. On apprend par exemple que 67% des consommateurs dans le monde se sont déjà tournés vers une nouvelle marque en raison de ses prises de position sur des sujets controversés. Et dans les mêmes proportions, 65% qui disent qu'ils n'achètent pas certains produits parce que l'entreprise est restée silencieuse sur un sujet dont elle aurait dû s'emparer. Autre enseignement de cette étude, entre une pub qui vante un produit et une autre qui défend les valeurs de la marque, eh bien l'impact sur l'intention d'achat est exactement équivalent. 44% pour la pub sur le produit, 43% pour la pub sur les valeurs. On note aussi que cette forte sensibilité aux valeurs de marque est largement partagée au sein de la population. C'est un peu plus vrai chez les jeunes 15-34 ans qui disent à près de 70% acheter en fonction des prises de position des annonceurs. C'est 56% chez les plus âgés, mais c'est aussi chez eux en très forte progression d'une année sur l'autre.
Mais comment s'explique cette progression ?
Eh bien, pour les auteurs de l'étude, cette forte sensibilité est d'abord liée à la défiance envers le monde politique, en fait. En France, par exemple, 43% des sondés disent avoir confiance dans les entreprises, et c'est seulement 33% pour les hommes politiques. Et on retrouve ce gap dans la plupart des grands pays. Du coup, la majorité des personnes interrogées au niveau mondial pensent que les entreprises peuvent faire davantage que les gouvernements pour régler les problèmes de société. Deux tiers des sondés disent même que les PDG doivent initier le changement plutôt que d'attendre que le gouvernement l'impose. Alors il y a cette attente vis-à-vis de la politique, mais il y a aussi un effet de comparaison. En effet, quand les nouvelles marques arrivent sur un marché, elles ont tendance à prendre des positions un peu plus radicales pour essayer de sortir du lot. On pense à des exemples type Michel et Augustin, même si ça date d'il y a quelques années, ça reste une tendance de fond. Du coup, les consommateurs attendent que les marques leaders installées prennent elles aussi des engagements. On l'a vu du côté des grandes marques avec évidemment la campagne de Nike avec son égérie Colin Kaepernick, sportif assez controversé aux États-Unis qui a pris position contre les violences policières, ou plus proche de nous, Carrefour avec sa campagne récente sur la transition alimentaire. Évidemment, il y a toujours un risque quand on se lance dans ce genre de campagne de se faire des ennemis, mais pour les auteurs de l'étude, il faut prendre des risques. Le risque paie à une période où la notion même de marque est challengée, où la publicité est de plus en plus mal accepté. Tout le monde ne va pas aimer ce que vous faites, mais au moins faites quelque chose.
Merci beaucoup Simon Tenenbaum.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Et le zoom du jour autour du placement de produits avec Leïla Abdallaoui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la communication chez Seat France, et Bertrand Nadeau, bonjour.
Bonjour.
Directeur général de l'agence Hughes, qui est donc spécialisée justement dans le placement de produits. D'abord, est-ce qu'on peut revenir sur ce terme ? Moi, j'aimerais savoir ce que ça englobe aujourd'hui, le placement de produits.
Alors la définition qui est donnée par le CSA, c'est le fait d'insérer un produit, une marque ou un service au sein d'un programme, moyennant une contrepartie financière, puisque le placement de produit est une activité commerciale.
Et bien alors, est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, de le placer autant qu'on veut? Est-ce qu'il y a des règles juridiques?
Tout à fait. Donc justement, c'est bien pour ça que le CSA a encadré ses prises de parole. Il y a une publication au Journal officiel qui a été faite en 2010 pour réglementer officiellement cette activité. La réglementer, mais aussi l'ouvrir, puisqu'en fait, on était jusque-là plutôt sur de l'apport en production, et on est passé sur une vraie réglementation. Donc la réglementation s'applique au cinéma et aux œuvres de fiction, donc sont exclus du champ du placement de produits tout ce qui est divertissement, information, évidemment.
Oui.
Et puis l'encadrement aussi se fait sur la manière de faire, puisque la loi dit que cette intégration doit être naturelle et justifiée. Naturelle et justifiée, ça veut dire ne pas impacter un scénario pour faire du placement. C'est plutôt l'inverse, c'est la marque qui doit s'insérer naturellement dans un contexte et justifier, là encore, parce qu'il n'est pas question de placer un produit à un endroit où il n'était absolument pas logique de voir ce produit ou ce service.
Et je vois qu'il y a aussi que ça ne doit pas inciter à la vente. C'est un peu légèrement hypocrite.
Non, c'est pas hypocrite. Enfin, je pense pas. En tout cas, l'idée, c'est de dire qu'il ne doit pas y avoir de discours commercial. Okay. On n'est pas là pour dire que tel ou tel produit coûte tel ou tel prix. On peut placer un produit, parler d'un service. On n'est juste pas là pour donner sa documentation commerciale.
D'accord.
Donc justement, Leïla Abdallaoui, vous avez chez Seat lancé un grand programme comme ça de placement de produits. Comment est-ce qu'il s'est déroulé? Quel type de programme vous avez ciblé?
Alors, juste pour remettre dans le contexte, en fait, vous le savez, le secteur automobile aujourd'hui est assez encombré. On a en France de gros acteurs qui prennent beaucoup, beaucoup de place.
Ouais.
Et nous, la volonté, c'était de pouvoir être 100% visible. Et du coup, on s'est dit comment est-ce que on peut avoir un complément de visibilité en dehors de nos plans médias classiques.
Ouais.
Et on s'est penché là-dessus, et c'est pour ça qu'on a travaillé avec l'agence Hughes et Remind PAG pour pouvoir trouver ce fameux complément de visibilité. Et on s'est dit effectivement que le placement de produits était très cohérent dans cette stratégie-là, toujours dans le côté 100% visibilité, et que ça nous permettrait de pouvoir rentrer dans le quotidien des Français, dans leurs séries et dans leurs téléfilms fétiches qu'ils adorent, pour pouvoir montrer notre produit dans des conditions d'usage habituelles, avec en montrant et démontrant et signifiant le changement de l'image de la marque.
Mais d'accord, on voit des Seat dans combien, 360 séquences cette année, donc logiquement on la voit. Mais pour autant, quand on est en train de regarder une série ou un film ou une fiction, c'est pas la chose, on s'intéresse pas forcément à la marque de la voiture qui passe dans le champ ou dont le héros se sert, etc. Donc est-ce que finalement c'est pas banal, je comprends que c'est banalisé, mais du coup est-ce qu'on la voit vraiment? Est-ce que vous mesurez la question pour les deux?
Alors, en fait, le fait de pouvoir intégrer nos véhicules dans des séries, justement, ou dans des téléfilms, c'est de pouvoir habituer les personnes à voir, de un, notre logo, et à voir aussi le véhicule dans son intérieur, dans un contexte vraiment réel dans l'usage du quotidien. Et puis après, sur votre question de comment on mesure, bien entendu, on va faire des post-tests pour voir comment ces placements ont été perçus par le public. Est-ce que on a eu un impact en termes d'image? Est-ce que ça a changé les choses? Est-ce que c'était pertinent aussi pour le téléspectateur? Et après, est-ce que, bien entendu, il y a une intention d'achat derrière ou pas? Voilà. Et laisser transformer si tout ça est bien entendu réuni.
Bertrand Nadeau, sur des opérations qui sont terminées, puisque celle de Seat est en cours, on mesure, il y a une vraie efficacité du placement de produits?
Ouais, tout à fait. On constate des augmentations assez significatives. Alors, le significatif va dépendre, j'ai envie de dire, de la récurrence. Un des facteurs clés, et c'est là où aussi la démarche de Seat, je pense, est très intéressante, c'est que, justement, si on vient une fois faire un placement, bien entendu qu'il y a des chances qu'on n'ait pas forcément noté ou remarqué, c'est plus par cette récurrence. Et donc, effectivement, on va constater des augmentations de mémorisation, de familiarité, c'est un vrai sujet aussi dans l'automobile, donc de familiarité, et puis on constate aussi des impacts sur l'intention d'achat, donc tout ça est mesuré par des organismes indépendants en plus, et qui aussi ont... Il y a un organisme qui s'appelle Public Impact qui fait une étude qui agrège des centaines de cas de placement de produits, donc qui permet aussi de les comparer entre eux. Ils sont comparés de valeur absolue et, et en valeur relative aussi.
Et mais qu'est-ce qui fait qu'un placement de produit est réussi? Est-ce que c'est une stratégie un peu, je dirais, comme celle de Seat, où finalement le produit se met assez discrètement, assez naturellement, ou est-ce qu'au contraire il faut que ça se voit pour que ça marche?
Je pense que l'objectif, c'est quand même d'avoir les deux. Alors, nous, notre conviction, c'était déjà, elle porte sur une première chose qui est que il y a une distinction dans le placement de produit. On appelle placement de produit actif ou passif. Actif consiste à placer un produit avec un usage. Donc, concrètement, sur l'automobile, c'est voir la voiture rouler. Passif, ça serait voir dans le fond une affiche pour une automobile dans le fond d'une fiction. Sans surprise, on considère, nous, qu'on essaye de focusser sur des environnements de placement produit actifs pour voir vraiment le placement le produit dans son usage. Donc ça, pour nous, c'est un facteur de clé de succès. Le deuxième, c'est, je vous l'ai dit, du coup, c'est la fréquence, d'être sur du long tail. Cette stratégie n'a du sens que sur de la répétition, il faut de la fréquence. Et puis enfin, c'est de respecter, mais la loi l'impose, mais on y est aussi très vigilant, respecter l'intention narrative, c'est-à-dire que en aucun cas, de toute façon, on a le droit d'influencer. Mais en plus, on veut vraiment rester dans quelque chose de très naturel pour que, par contre, le téléspectateur, lui, se dise pas au contraire, on essaye de me mettre trop en avant un produit et créer quelque part presque un rejet. Donc il faut être très, très naturel aussi dans son placement.
Merci beaucoup Bertrand Nadeau, directeur général de l'agence Fuse, et Leïla Abdallaoui, responsable de la communication chez Seat France.
BFM Business, Hebdo.com, comme un chef.
Alexandre Krouglikov, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur marketing France et Belgilux de Ricola. 7 milliards de bonbons aux plantes produits chaque année. Et vous avez ouvert cette semaine alors une herboristerie à Paris. Quel est le message que vous voulez faire passer en ouvrant cette herboristerie?
Il faut savoir que Ricola est né avec cette passion du fondateur pour les plantes. Il était boulanger à la base, en fait, et il travaillait le soir, il s'intéressait aux plantes, il lisait des livres sur l'herboristerie, il a décidé, en fait, de fusionner sa passion pour les plantes et pour les bonbons, et il a commencé à confectionner, en fait, des bonbons à base de plantes. Et donc, c'est un petit clin d'œil, en fait, par rapport à ses origines, c'est aussi l'occasion d'en dire plus sur la marque, parce que tout le monde connaît en fait Ricola, ses pubs décalées, ce fameux jingle Ricola, mais en fait les gens connaissent pas forcément que c'est une marque familiale, bienveillante, authentique, engagée, voilà, l'objectif, c'est de pouvoir présenter en fait les 13 plantes qui sont dans tous les bonbons Ricola, c'est de pouvoir partager cette passion pour les plantes, et c'est aussi pouvoir en dire un peu plus sur l'histoire de cette marque familiale.
Alors qu'est-ce qu'on trouve dans votre herboristerie?
Dès qu'on arrive, on voit une façade complètement végétalisée. On rentre, on est accueilli par un conteur qui nous raconte l'histoire de cette marque avec plein de petites anecdotes. On a un bar à infusion pour déguster des infusions. On a une naturopathe. On peut lui poser des questions sur les plantes, leurs bienfaits. On a une présentation en fait des 13 plantes qui sont donc dans tous les bonbons Ricola, sous leur forme fraîche, sous leur forme séchée. On explique un peu comment sont cultivées les plantes dans les montagnes suisse, comment on a développé des partenariats long terme en fait avec les cultivateurs de plantes.
Une centaine, je crois, c'est ça?
C'est ça, ouais, 112 exactement. Et en fait, c'est des partenariats qui sont en moyenne de 25 ans. Et aussi ce qu'on peut trouver d'autre, donc il y a un bar à bonbons aussi pour déguster en fait les différents bonbons de la gamme en France. On a aussi des ateliers ludiques donc autour des plantes. Donc on a un atelier 5 sens pour en apprendre plus sur les plantes, un atelier herbier déco parce que c'est très tendance en ce moment, et un atelier en fait pour faire ses propres infusions sur mesure et pouvoir les ramener chez soi.
Mais alors vous avez un peu un double discours, pardon, mais parce que vous avez effectivement tout ce côté très sain, les plantes, les infusions, et puis de l'autre côté, ça reste un bonbon, ça reste du sucre, c'est peut-être pas forcément très sain. Comment est-ce que vous répondez à ça?
Déjà, en fait, à la base, Ricola, donc c'était un bonbon aux plantes qui est bienfaisant pour la gorge et pour la voix. Et d'ailleurs, on a beaucoup de célébrités qui consomment Ricola. Ça peut paraître paradoxal parce que Ricola, c'est une marque familiale en fait d'un petit village à Laufen. Et pourtant, voilà, on a beaucoup de stars qui nous consomment justement pour les bienfaits du produit. Et après, par rapport au côté sucre, en fait, on a une offre sucre, mais on a surtout une offre sans sucre qui est assez basse en calories puisqu'il y a seulement 6 calories par bonbon.
Et vous allez rajeunir l'image de la marque avec cette opération ?
Oui, l'idée en fait c'est de créer une expérience de marque parce qu'il y a certaines choses qu'on peut dire à travers les pubs télé, mais après vivre cette expérience de marque, en apprendre plus sur la marque, avoir une expérience un peu plus engageante, interactive et moderne, bah, ça permet de créer un lien plus fort avec le public et oui c'est une opportunité aussi de s'adresser à une cible un peu plus jeune qui sont sensibles en fait à ce genre de sujet et qui sont à la recherche de marques qui sont porteuses de sens.
Merci beaucoup Alexandre Kruglikoff, directeur marketing France et Belgilux de Ricola. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdo.com sur BFM Business.